lieu du festival Fil Bleu.
Avec Yva Ougnon sur Radio Lomé.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier numéro de Radio Fil Bleu, la radio du festival sur Radio Lomé. Rumeurs du monde, c'est le thème de la 10e édition du Festival international des Lucioles Bleues, Fil Bleu, dont les activités démarrent demain mercredi 15 mars pour finir le lundi 27 mars 2017. Le mot rumeur dans ce thème, tel que c'est écrit pour le festival, n'est pas ordinaire. C'est un jeu entre deux mots. Rumeur et humeur. Alors je vous les pèle tel que c'est écrit pour vous permettre de faire votre petite idée sur le thème avant qu'on ne le développe. Rumeur s'écrit comme ceci. R, et vous ouvrez la parenthèse, humeur, H-U-M-E-U-R-S, et vous fermez la parenthèse. Voilà, rumeur du monde. C'est le thème du Festival Fil Bleu cette année. Qu'est-ce qui a inspiré le choix de ce thème? Nous le saurons dans peu de temps. Nous parlerons dans cette émission des activités qui vont meubler le programme de ce festival cette année. Pour cette 10e édition, l'accent est mis sur la poésie avec une bonne programmation d'auteurs venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Togo. La poésie peut-elle se nourrir des rumeurs ou des humeurs? Comment ce thème va-t-il influencer les activités de ce festival? Nous tenterons d'avoir des réponses à toutes ces questions avec nos deux invités, Kani Alem, directeur artistique du festival, Renaud Dossavi, Ali Poué, auteur du recueil de poèmes Rose et Lointaine. À part mes deux invités, chacun des membres de l'équipe de la radio Fil Bleu passera dans cette émission pour présenter la rubrique qu'il va animer en principe.
Radio Lomé.
C'était sur une grande route, je marchais là depuis des jours, voire des semaines ou des mois, je marchais là depuis toujours. Une route pleine de virages, des trajectoires qui dévient, un chemin un peu bizarre, un peu tordu, comme la vie. Évidemment, j'étais pas tout seul, j'avais envie de faire connaissance. Il y avait un tas de personnes et personne marchait dans le même sens. Alors je continuais tout droit, mais un doute s'était installé. Je savais pas ce que je foutais là, encore moins où je devais aller. Mais en chemin, au fil du temps, j'ai fait des sacrées rencontres. Des trucs impressionnants, faut absolument que je vous raconte. Ces personnages que j'ai croisés, c'est pas vraiment des êtres humains. Tu peux parler avec eux, mais jamais leur serrer la main. Tout d'abord, sur mon parcours, j'ai rencontré l'innocence. Un être doux, très gentil, mais qui manque un peu d'expérience. On a marché un petit moment, moins longtemps que ce que j'aurais cru. J'ai rencontré d'autres éléments et l'innocence a disparu. À un moment sur mon chemin, j'ai rencontré le sport. Un mec physique, un peu grande gueule, mais auprès de qui tu deviens fort. Pour des raisons techniques, on a dû se quitter, c'était dur. Mais finalement, c'est bien comme ça, puis le sport, ça donne des courbatures. J'ai rencontré la poésie, elle avait un air bien prétentieux. Elle prétendait qu'avec les mots, on pouvait traverser les cieux. Je lui ai dit, je t'ai déjà croisé, et franchement, tu vaux pas le coup. On m'a parlé de toi à l'école, et t'avais l'air vraiment relou. Mais la poésie a insisté, et m'a rattrapé sous d'autres formes. J'ai compris qu'elle était cool, et qu'on pouvait braver ses normes. Je lui ai demandé, tu penses qu'on peut vivre ensemble? Je crois que je suis accro. Elle m'a dit, t'inquiète, le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Puis j'ai rencontré la détresse, et franchement, elle m'a saoulé. On a discuté vite fait, mais rapidement, je l'ai refoulé. Elle a plein de certitudes sous ses grands airs pleins de tension. Mais vous savez quoi, la détresse, elle a pas de conversation.
Radio Lomé. Un moment sur ma
route. Grand Corps Malade, c'est le nom de l'auteur de cette chanson intitulée Rencontre, qui nous amène à donner la parole aux invités. Kani Alem, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes écrivain dramaturge, auteur de plusieurs livres, mais aujourd'hui, c'est le directeur artistique du Fil Bleu que vous êtes, qui nous intéresse. Est-ce que vous êtes prêt, tout est prêt pour le démarrage effectif de l'édition 10 de ce festival?
En fait, le festival a démarré depuis... Nous sommes un festival un peu bizarre. En réalité, le festival fait des activités toute l'année. Mais pour des raisons de calendrier pour satisfaire aux exigences de la programmation imposée parfois par les partenaires. Nous sommes obligés de définir des dates. Ces dates-là seront ces dates-là seront les dates qui sont retenues. Nous avons déjà commencé les activités par une caravane littéraire qui a eu lieu du 26 mars du 26 février, oui, plutôt au 4 mars.
Cette caravane qui a fait le tour du Togo.
Puis la caravane, le tour, c'est un peu
grand. Des grandes régions.
Cinq villes. Nous aurions aimé en faire plus, mais bon, cinq villes, c'est d'abord une logistique qui est très compliquée à gérer. Et lors de cette caravane, nous avons fait une activité à la fois littéraire et commerciale. C'est-à-dire que nous nous sommes déplacés avec deux maisons d'édition qui ont proposé à chaque public rencontré, des scolaires, des détenus de prison et d'autres jeunes, des livres à des prix réduits. Et puis les auteurs ont eu la possibilité de rencontrer ce que nous appelons...
Ou alors leur lecteur.
Leur lecteur réel, voilà. ou potentiel, voilà. pour discuter avec eux de tout et de rien. Et donc ça
c'était une phase de
oui, c'était une phase festival. Du festival, puisque Fil Bleu le faisait en partenariat avec l'Association des écrivains togolais et la délégation de l'Union européenne, qui avait greffé sur la caravane des activités de développement, c'est-à-dire
de l'eau potable par ici,
de l'adduction d'eau à Naki Est, des travaux en vue de la décentralisation dans des villes comme Atakbamé et autres. Donc, on faisait une activité à la fois littéraire et développementaliste, si on peut dire. On aimait bien cette idée de greffer à des choses concrètes des activités plutôt qui relèvent de l'intellect. Donc ça, c'était la première phase. Hein. Maintenant, la phase que nous appelons la phase internationale, c'est cette phase-là qui va se dérouler à partir de demain et qui va se clôturer le 27 mars.
Donc ça veut dire que tout est fin prêt depuis que vous avez commencé la caravane jusqu'à ce jour.
Jusqu'à ce jour, on a fait circuler pratiquement 12 auteurs, et donc ceux qui vont intervenir durant ce laps de temps constituent la dernière réserve du bataillon que nous avons formé.
Oui, il y a des auteurs étrangers qui seront là, des Ivoiriens.
Oui, à partir de demain, nous recevons trois auteurs ivoiriens, Hilaire Kobena, Samuel Denis et Jules Denis, le frère Denis, comme nous les appelons, deux auteurs qui pratiquent de la littérature populaire, c'est-à-dire des romances, des histoires d'amour. Mais c'est un marché très intéressant également, la littérature populaire, parce qu'on s'est rendu compte que c'est plutôt cette littérature-là.
Est-ce que les jeunes aiment lire
Je ne sais pas si c'est forcément les jeunes, mais la cible est encore plus précise, c'est les femmes. C'est les femmes. C'est un peu l'équivalent de ce qui se passe aux États-Unis avec le genre qu'on appelle la ticlite, c'est-à-dire la littérature de poulette, où on ne raconte que des histoires de femmes, et souvent ce sont des textes écrits par des femmes pour les femmes, pour se partager leurs histoires de femmes, parce qu'il semble que les histoires de femmes seraient plus intéressantes que les histoires d'hommes.
Donc il y aura aussi des Béninois ?
Oui, il y aura également trois poètes béninois. Là, nous précisons, c'est vraiment des poètes. Les Ivoiriens sont des romanciers, pour la plupart d'entre eux, mais là, nous avons quand même trois générations de poètes béninois. Il y a d'abord Louis Mesmin Glélé, qui est un poète d'une cinquantaine d'années et que nous qualifions de la mémoire vive de la poésie béninoise, qui a derrière lui une activité pratiquement de 30 ans de poésie. Oh. Et il
c'est
y a
une belle expérience.
Oui, et il y a le poète qui monte actuellement au Bénin. C'est l'écrivain phare du Bénin aujourd'hui. Daté, Barnabé Akai. C'est vraiment le trublion de la littérature béninoise. Qui a écrit un roman il y a 2 ans, qui a fait beaucoup de bruit, qui ose aborder des sujets jugés tabous dans la littérature béninoise, et qui est essentiellement un poète d'une inventivité et d'une qualité exceptionnelle. Et la nouvelle génération est incarnée par une poétesse également que nous invitons, qui elle s'appelle Esther Doko. Qui elle vient du slam. Bon, okay. Le grand débat que nous allons reproduire à l'Institut Goethe avec le 17, c'est de savoir si vraiment le slam est de la poésie. Mais elle-même, aujourd'hui, elle vous dira qu'elle ne fait plus du slam, elle fait de la poésie. Parce que je crois qu'elle s'est rendue compte que l'art oratoire que propose le slam ne va pas travailler dans la même profondeur que la poésie. Donc, elle se revendique aujourd'hui comme une poétesse à part, et elle est à son premier livre, donc c'est la nouvelle génération de la poésie béninoise que nous allons faire découvrir aux passionnés de poésie.
D'accord, nous y reviendrons. Renaud, bonjour. Renaud.
Bonjour.
C'est Renaud de Savy, à Lipoué. Comment vous allez ?
Très bien, très bien.
Vous êtes l'auteur du recueil de poèmes Rosée lointaine, vous participez activement à ce festival. Comment vous vous sentez à la veille de l'événement ?
C'était un réel plaisir. C'est très plaisant pour moi de participer à ça parce que aux dernières éditions, j'y étais en tant que spectateur essentiellement. Donc ça fait un sentiment particulier d'être dans le premier wagon du festival. Donc c'était un réel plaisir et je suis assez heureux d'être là.
Prêt ?
Prêt, oui, très prêt.
Et je l'annonce, vous avez une rencontre demain avec les élèves du lycée d'Adi de Gomé 2 autour de votre recueil de poèmes « Rosée lointaine ». Nous y reviendrons. Nous allons marquer une toute petite pause, le temps de présenter l'équipe qui va travailler tout au long de cette semaine et la semaine prochaine sur cette radio fil bleu.
Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg.
Alors, l'équipe, elle est composée de plusieurs personnes, journalistes, venus de tous bords. Il y a Dean Akoyi, qui est réalisateur, qui va se charger de la réalisation de cette émission. Il sera assisté de Ama Gracia Egon, et qui a aussi d'autres rubriques. À part lui, il y a Claude Blackbo. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ça va bien.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire concrètement sur cette radio ?
Oui, pendant ce festival Fil Bleu et précisément dans l'émission la radio du festival, je vais animer la rubrique Le livre du jour. Donc nous aurons chaque jour un livre qui nous sera présenté dans l'émission.
Ça veut dire que chaque jour vous devrez lire un livre ?
Oui, bien sûr.
Et venir nous présenter en combien de minutes ?
En 3 minutes au maximum.
Le contenu, vous allez résumer le contenu.
Oui, le contenu.
Et ça va se passer chaque jour.
C'est ça.
Merci. À part vous, il y a Geneviève Cognon. Bonjour.
Yves, bonjour.
Vous êtes à Radio Lomé. Je rappelle que Claude, il est étudiant, donc il fait l'expérience de la radio. Qu'est-ce que vous allez nous présenter au cours de cette radio du festival ?
Oui, au cours de cette radio du festival, moi je suis sur des reportages. C'est vrai qu'au début, je n'avais pas suivi vraiment la formation parce que j'étais indisposée.
Mais il faut rappeler que vous étiez sur la caravane.
Sur la caravane littéraire, ce n'était pas facile, on a sillonné 5 grandes villes du Togo. Je crois que c'est la fatigue quand même. Mais j'ai tenu à rattraper le temps perdu. Donc, j'ai 2 sujets à faire, 2 sujets de reportage. Et tout d'abord, le premier concerne l'industrie du livre.
Voilà. Le parcours du livre.
Le parcours, le processus.
De la production.
De la production jusqu'à la conception du livre.
Distribution.
Et la distribution. On va tendre le micro aux auditeurs et aux écrivains. Comment ça se passe ? Ils vont nous le dire. Et le
semble-t-il
second...
que c'est un parcours de combattant.
Vraiment.
Mais votre reportage nous les égayera.
Oui. Et le second sujet concerne la soirée poétique des écrivains béninois. Kani vient tout à l'heure de le rappeler, les écrivains béninois qui vont venir se produire à Goethe Institute le 16 mars prochain. Donc, je serai sur...
C'est des reportages.
Voilà, d'accord. Sur l'événement pour la couverture médiatique.
Merci. Merci, Geneviève Cognon. Je me retourne vers Gabriel Adibli.
Oui.
Bonjour.
Bonjour, Yves.
Et vous, votre rôle sur la radio, c'est quoi?
Je ferai essentiellement un reportage sur le thème « La littérature éveille ». Il s'agit de faire un état des lieux. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on gagne à lire des romans en éveil? Ensuite, j'aurai à présenter le livre du jour, essentiellement un roman, éveil, écrit par une Togolaise.
Donc, vous travaillez en collaboration avec Claude?
Oui, tout
à fait. Vous allez alterner les jours?
Tout à fait, c'est ce qu'on fera.
Monsieur, donc, vous allez aussi présenter des romans?
Des romans.
Vous avez commencé déjà par lire les romans?
Oui. Surtout que c'est des textes écrits dans notre langue, en éveil essentiellement. Okay. Donc, il faut lire, décortiquer, voir un peu si la trame de l'écriture telle qu'on retrouve ça en français, est-ce que cela existe en éveil? Et donc, on va essayer de faire le compte-rendu de tout cela.
Merci, Gabriel. Léo Agbo, bonjour.
Ouais, bonjour, Yves.
Vous aussi, vous êtes sur la radio du festival. Quel est votre rôle?
En fait, j'ai en charge deux rubriques. Tout d'abord, la rubrique « Au rythme des mots ».
Au rythme des mots?
Oui.
Les mots vont danser sur quel rythme?
Non, en fait, chaque jour, durant tout le long du festival, en 5 minutes, je ferai la lecture de l'œuvre « La fête des masques » de Samy Tchak.
Ok. Le roman « La fête des masques » de Samy Tchak sera lu au long de la radio. Donc, chaque jour, vous venez, vous présentez un extrait de 5 minutes.
D'accord, oui. Voilà.
Ça a commencé. Vous avez commencé déjà le travail, j'espère.
Oui. Déjà, ça commence à partir de demain.
De demain?
Oui.
D'accord. Autre chose?
Je me charge également de la rubrique portrait. Et je ferai le portrait du parolier slammer Caporal Wisdom, de la photographe professionnelle Victoire Agbemehin et de Sanvi Alouassio.
Voilà. Merci à vous, Léo Agbo. Et puis, Ama Gracia Egom,
c'est ça.
À part le fait d'être co-réalisateur de cette émission, vous avez d'autres rôles?
Oui, j'ai à ma charge la rubrique qu'on a intitulée « Bibliothèque d'une personne » en fait. Et j'ai 5 personnes à visiter. Et l'idée, c'est d'aller dans la bibliothèque privé de certaines personnes, découvrir un peu
ce qu'ils lisent,
l'amour du livre,
oui.
et puis voir aussi l'organisation de cette bibliothèque, et puis voir leur coup de cœur, les livres qu'ils affectionnent. Et c'est vrai qu'ils aiment tous les livres, mais il y a des livres
assez particuliers
qu'ils aiment. Et c'est cela que nous allons présenter à nos auditeurs.
Ah oui, mais est-ce qu'on peut avoir déjà des noms de quelques personnalités?
Oui, quelqu'un qui a un livre en chinois dans sa bibliothèque, par exemple, Kang Yalem.
Ah ben.
On ira découvrir sa bibliothèque, oui.
Ok.
On verra aussi la bibliothèque de Kadanga Balo, Madame Kwakuvi. Et nous sommes sur les tractations pour voir si le professeur Adani Ife peut nous ouvrir la porte de sa bibliothèque, de même que l'excellence Cornelius Aydam.
Ok, merci. Et donc, à partir de demain, on commencera pas à découvrir toutes ces belles choses.
C'est ça.
Et Karine de Souza, bonjour.
Bonjour Yves.
Ça va bien?
Je vais très bien, merci.
Alors, vous faites quoi sur la radio?
Eh bien, au cours de la radio du festival, moi, je me chargerai, tout comme Léo et Gabriel, de la rubrique Le Portrait. Et plus précisément, je ferai le portrait. C'est moi qui ouvrirai le bal demain. Je ferai le portrait de l'artiste plasticien Richard Lawson, Richard Latte Lawson.
D'accord.
En premier également une chanteuse lyrique. Elle fait dans le classique, mais elle est togolaise. Elle est exceptionnelle, cette dame. Elle a une belle voix, une voix qui donne, et elle s'appelle Clémentine Aefouni.
Quand vous le dites,
J'imagine. Eh bien, vous en saurez plus tout au long de ce festival. Alors, à part la rubrique Le Portrait, je me chargerai également de reportages. Je ferai également un reportage, parlerai ou bien je ferai découvrir encore une fois l'artiste plasticien qui n'est plus de ce monde. Je parle de Calico, de ses œuvres, de ce qu'il a laissé, comment, quel message il a voulu transmettre. Et bien qu'il ne soit pas de ce monde, je le ferai revivre à travers ce dont je vais parler. Et aussi avec Dean qui est de l'autre côté, on fera la pensée du jour, on va alterner. Voilà, ce merci. Que j'aurai à faire tout au long de cette radio du festival.
Merci et sans transition, Dean, bonjour.
Bonjour Yves.
Alors vous ferez quoi?
Moi, comme Karine vient de le dire, j'alterne avec elle la pensée du jour. Et en plus, je suis chargé de coordonner l'équipe à l'absence de Sophie. Et en plus de cela, je réalise avec Yves et je réalise avec
Gracia
l'émission. L'émission.
Voilà tout. Merci à vous tous. Je rappelle, ou alors j'ajoute qu'il y aura Andrea Manim qui est aussi présentatrice. À partir de demain, vous écouterez Andrea Manim sur cette émission. Et Sophie Ekwe qui a coordonné tout le travail qui a été fait. Et à tout ce monde sera présent sur la radio. Nous marquons la pause et on retrouve les invités.
Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison.
Alors Kenny, vous venez d'écouter les différents journalistes et reporters qui vont travailler sur la radio du festival. Alors, qu'est-ce que ça vous dit?
C'est une grande ouverture que vous faites au Festival Fil Bleu, parce que les différentes rubriques permettent d'élargir la programmation que nous avons faite. J'en suis vraiment heureux, parce que le souci majeur de Fil Bleu a toujours été de faire dans l'interdisciplinarité. C'est un festival de littérature peut-être, mais chaque année ce que nous faisons, c'est que nous faisons un lien avec un autre art. Cette année c'est les arts plastiques. L'année dernière ça a été beaucoup la musique, parce que nous avons travaillé l'année dernière avec des orchestres qui travaillent sur l'afrobeat et la rumba, qui sont deux rythmes majeurs du golfe de Guinée. Nous essayons de montrer que la créativité artistique est toujours en lien. Les écrivains souvent sont des gens qui aiment peut-être la peinture, ou qui pratiquent de la peinture, ou qui font de la musique, qui font toujours une activité annexe qui leur permet d'approfondir autrement leur sensibilité. Donc, ce que nous voulons montrer au final, c'est que les artistes, qu'ils soient togolais ou internationaux, ont d'autres cordes à leurs arcs. Et c'est ce que vous essayez de montrer quand même dans la programmation.
Alors, faisons un petit rappel à nos auditeurs. Qu'est-ce qui a provoqué la création du Festival international Les Lucioles Bleues?
Alors, c'est une histoire d'amis, en fait. En 2011, nous étions combien? Je crois qu'on devait être 6 ou 7 amis. Il y avait les frères Nusuglo, Gaëtan et Syriac. Il y avait un Togolais qui est metteur en scène et homme de théâtre à Montbéliard qui s'appelle John Doe. On avait un ami anthropologue allemand qui a beaucoup travaillé sur le Togo qui s'appelle Bernard Müller. Une amie hollandaise aussi qui travaillait sur les marionnettes du Togo. Et on s'était dit, on va créer une association qui s'occupe de faire du théâtre. Au début, le festival était consacré uniquement au théâtre. On a fait 4 éditions de Fil Bleu avec des troupes venues d'Afrique, du Japon, de l'Inde, etc. Et on s'est rendu compte que on était sur un terrain où on était trop nombreux.
C'est-à-dire
parce qu'à l'époque où on faisait notre festival de théâtre, il y avait également un autre festival de théâtre. Il y avait le Festef. Et la plupart des gens qui organisaient le Festef étaient nos amis.
D'accord.
Donc, on s'est retrouvé dans la situation où, sans le vouloir, on était en concurrence. Et moi, personnellement, ça ne me plaisait pas. Et au bout d'un moment, nous avons fait une assemblée générale et on a changé la direction de l'association. Et je n'étais pas directeur artistique au début, okay. C'était Gaëtan Soublo qui était le directeur artistique. Et donc on a tout changé, et j'ai pris le poste de directeur artistique. Et donc puisque c'est à moi qu'incombait la charge de la programmation, j'ai infléchi une autre... J'ai carrément amené le festival dans une autre direction en disant le fil conducteur, la base de notre programmation va être la littérature, parce que sur ce terrain-là, il n'y a personne. Encore aujourd'hui, vous n'avez pas, en dehors de Fibre, vous n'avez personne qui s'occupe de la
Il n'y a pas un festival de littérature.
Non, il n'y en a pas. Et quand vous regardez même dans la sous-région, il n'y en a pas beaucoup de festivals de littérature. Il y a beaucoup de festivals de théâtre. Il y a des salons du livre. Mais un festival qui met en vedette, qui donne la vedette aux auteurs, vous n'en avez pas. Donc on l'a fait en se disant, on ne va pas se fermer toutes les portes. Donc, on part de la littérature, on va vers le théâtre, on va vers les arts plastiques, la musique, la bande dessinée, la sérigraphie, tout ce que vous voulez. Et c'est pour ça que nous l'appelons un festival interdiscipliné.
Interdiscipliné.
c'est une discipline qui se fait entre les arts.
Okay. Hein,
mais ça nous permet en réalité de travailler avec d'autres associations. Nous ne fermons jamais la porte aux autres associations parce que je crois que nous sommes tous sur un terrain difficile. Le terrain associatif togolais est marqué souvent par l'impréparation, le manque de subventions. Et donc, si on doit se faire la guerre, ça ne peut pas marcher. La seule chose qui est possible, c'est que lors d'un fil bleu, par exemple, une association comme l'Association des écrivains du Togo partage ses coups de cœur avec nous et qu'on puisse travailler ensemble, qu'on puisse faire venir des slameurs qui appartiennent à d'autres associations, qu'on puisse faire venir des dessinateurs. Et ça permet en réalité de partager les maigres subventions que nous avons. Il y a un rapport récemment qui a été fait... Enfin, le français, bon, on peut en discuter, et qui disait que le champ artistique togolais est, entre guillemets, improductif. Et on vous explique, par exemple, que le budget de l'Institut français va être réduit de façon drastique parce que ça ne sert à rien de mettre de l'argent sur un terrain où l'art est improductif. C'est un point de vue qui peut choquer. Mais
est-ce que vous partagez le point de vue?
Écoutez, si je veux être franc, je partage ce point de vue.
D'accord, on évolue.
Oui, voilà. Je partage le point de vue parce que ce n'est pas la qualité des artistes qui est mise en cause. Non. L'improductivité n'est pas au niveau de la création. C'est au niveau de l'organisation des artistes eux-mêmes pour faire la publicité, la promotion de leur production. Donc, ça pose des questions sérieuses aux associations. Et il faudrait peut-être penser à un réseau comme on l'a avec Arterial Network en Afrique du Sud et en Afrique centrale. Il faut trouver des synergies nouvelles pour qu'on puisse montrer ensemble ce qui se fait au niveau de la production.
Fil bleu, donc peut-être la base.
Fil bleu se veut une locomotive. Les gens croient qu'on est riche à fil bleu.
C'est la dixième édition aujourd'hui.
Je peux même vous dire un truc qui est surprenant. Vous savez que, par exemple, cette année, Fil Bleu n'a pas reçu de fonds, un seul franc du fonds d'aide à la création. Zéro franc. Hein. C'est-à-dire que pour un événement aussi majeur, il y a un préjugé, à savoir que nous sommes capables d'aller trouver l'argent ailleurs.
Mais est-ce que vous avez demandé, la demande?
Bien sûr.
C'est quand même surprenant.
On l'a fait. Donc, mais on n'est pas les seuls.
On suppose peut-être que vous avez.
C'est ça. C'est pour ça que je parle de préjugés.
Qu'il faut aider.
Mais c'est un faux préjugé. Mais ce qui est arrivé à Fil Bleu, plein de gens ont ce problème-là. Donc, il faut aller plus loin que le fonds d'aide à la culture et essayer de trouver d'autres mécanismes pour faire fonctionner les associations qui produisent
de la culture. C'est quand même 10 éditions cette année, 10 éditions. Comment a été le parcours?
Ah, chaotique.
Sur quel plan?
On a même vu des huissiers débarquer. Je vous jure.
Je vous plains.
Je vous jure, on a même vu des huissiers débarquer. On a eu des contrôles de nos partenaires comme Africalia en Belgique, la fondation Prince Claus. Parce que parfois, quand vous demandez de l'argent à des partenaires étrangers, ils ont des protocoles très rigides. Ouais. Il faut prouver que l'argent que vous avez reçu, vous l'avez utilisé à produire effectivement de la culture. Mais nous n'avons pas toujours cette culture comptable. Et donc, parfois, on est surpris quand les gens prennent l'avion pour venir à Lomé en disant « Vous avez déclaré que vous avez acheté 2 ordinateurs portables. Est-ce qu'on peut les voir ?»
Ouais.
Ça va jusque-là. Ça va jusque-là. Donc, on est un peu sérieux. On est obligé de prendre les services d'un expert comptable pour nous faire nos rapports d'activité et montrer toutes les preuves de notre existence. On est passé par des hauts et des bas. Il y a eu 2 années pendant lesquelles on avait arrêté de faire le festival parce qu'on avait trop de dettes.
D'accord.
Et donc, une fois qu'on a payé les dettes, on a recommencé à refaire d'autres dettes.
Quand le festival ne fonctionne pas, comment est-ce que vous pouvez faire un peu de l'argent pour pouvoir
gérer les justement, dettes? c'est une association sans but lucratif.
Ouais.
Donc on ne fait pas le festival pour gagner de l'argent, c'est ça le paradoxe.
Oui, mais comment vous avez fait pour régler les dettes alors?
Avec notre argent, voilà.
D'accord.
Les membres de l'association se sont cotisés. Pour éponger les dettes, c'était la seule solution.
L'association, c'est aussi ça. Il faut mettre un peu la main à la poche. Il faut cotiser. Dans les associations, on cotise.
Bien sûr. On a fait des appels à des amis aussi pour nous aider à payer les dettes.
Alors, venons au thème de cette édition. Le thème, c'est bien « Rumeur du monde ». Je l'ai expliqué tout à l'heure. Comment ça s'écrit « rumeur » Ce n'est pas vraiment « rumeur ». C'est deux mots, « rumeur » et « humeur ».
Et « humeur ».
Que vous avez fondu, que vous avez essayé de fondre.
On a essayé de faire comme les poètes que nous avons programmés.
Justement, qu'est-ce qui a inspiré ce thème?
Bon, d'abord, il faut préciser qu'on peut faire un festival sans thème. C'est juste un prétexte pour essayer de donner une direction à la réflexion générale. Mais ce qui est à l'origine du thème rumeur du monde, c'est l'actualité.
C'est comme ça que ça doit se lire en fait.
Rumeur du monde.
Ah d'accord.
rumeur du monde. Voilà.
Ah, d'accord.
Ce qui a été à l'origine, c'est l'actualité. Mais l'actualité brûlante, hein. La question de tout ce qui nous arrive comme rumeur et des informations, c'est devenu notre mode de vie. Aujourd'hui, vous prenez l'affaire Snowden, les lanceurs d'alerte, tout ce que nous recevons comme information sur les plateformes des réseaux sociaux, WhatsApp et compagnie. Tel jour, vous ouvrez votre Facebook ou votre WhatsApp, vous recevez le plus sérieusement du monde une information comme quoi tel est décédé ou tel a été arrêté parce qu'il vend de la drogue. Et on ne se pose même plus la question de savoir si l'information a une source. Mais plus loin, pour revenir à l'affaire Snowden, quand le lanceur d'alerte attaque les États, attaque des agences d'État, la question est de savoir s'il n'y a pas manipulation du lanceur d'alerte. On l'a vu avec les soutiens de Snowden, par exemple. Un grand écrivain américain qui s'appelle Jonathan Franzen a essayé de montrer dans un roman récemment qui s'appelle Purity comment on peut tenter d'expliquer la proximité qu'il y a entre les lanceurs d'alerte américains et les autorités des renseignements russes. Il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans toutes les informations qui nous parviennent. Alors dans tout ça, on s'est dit, on va peut-être demander plutôt quelles sont les humeurs des gens qui créent, les humeurs des poètes, les humeurs des écrivains. On n'en parle pas. Alors, est-ce que vous recevez sur votre plateforme des informations comme quoi Renaud de Savy a dit dans tel poème que, etc. Voilà, nous opposons aux rumeurs qui nous phagocytent, qui nous empêchent de réfléchir, les humeurs des gens. Et parce que les gens ont aussi des humeurs en tant que créateurs et nous pensons que si nous faisons de la légitime défense contre les rumeurs, ben, nous devons nous ouvrir plutôt aux humeurs des gens. C'est ça qui crée la fraternité.
Alors, moi, je pose la question à Renaud de Savy, qui nous regarde depuis un mois. La poésie se nourrit-elle des rumeurs ou des humeurs?
J'ai envie de dire que la réponse est dans la question. Est-ce une nourrit des deux, évidemment? Bon, bien sûr, les humeurs, ça on sait que la création, surtout poétique, se nourrit beaucoup de l'émotion, du ressenti et des lames de fond qui viennent de l'âme. Et des rumeurs aussi, parce que ton état d'esprit, ta façon de penser, ta façon d'aborder le monde est conditionné par ce que tu sais du monde. L'ensemble d'informations que tu reçois, telle nouvelle t'a-t-elle rendu heureux ou triste ou en colère ou bouillonnant de rage? Qu'est-ce que ça va donner si tu prends un stylo, une feuille ou bien un clavier, un écran aujourd'hui? Évidemment que la poésie se nourrit de tout ça. Elle s'en nourrit même bien, j'ai envie de dire. Et surtout à cette époque où ça va extrêmement vite, où l'ascenseur émotionnel est tel que tu peux passer de rage à euphorie en le temps d'un clic, quoi, sur Facebook.
Alors, vous faites partie de ce programme, je l'avais dit. Vous y animerez d'ailleurs la première activité, rencontre autour de Rosée Lointaine au lycée d'Adido Gomé 2. Comment va se faire cette rencontre?
Le plus simplement du monde. Je vais m'asseoir, ils vont s'asseoir.
Vous rencontrez qui? Les élèves ou les enseignants?
Les élèves, mais j'espère que les enseignants seront là aussi. C'est toujours bien d'avoir les bergers pour aiguiller tout ça. Donc, il y aura un livre, le mien en l'occurrence, et puis voilà, ça va partir comme ça.
Marc Honoré, sur le livre dont vous parlez, votre recueil, qui fait l'objet de cette rencontre demain à 10h, de 10h à midi, au lycée d'Adido Gomé 2. L'œuvre est éditée par les éditions Audi et fait partie de la collection Éclosion. Elle est préfacée par Thudonné Ossan. Je parle là des Rosées Lointaines. L'illustration que nous présente la couverture de l'ouvrage présente l'image d'un champ avec des cocotiers et des bananiers. Un épais brouillard qui couvre le champ. Je m'imagine là dans des montagnes du Grand Cloto au petit matin. J'espère que je ne me trompe pas.
Disons qu'on est proche, disons qu'on est très proche.
D'accord. C'est une photo prise dans une ville togolaise?
Oui, absolument. Je crois que... Je ne sais plus si c'est Anas Atakora ou la TV Edem qui a pris la photo, parce que c'était dans le cadre, vous savez, quand on publie un livre, il y a la partie où on travaille le texte et tout, mais il y a aussi la couverture et tout ça. Donc l'éditeur te propose un ensemble d'images, tout ça. Celle-ci m'avait beaucoup frappé parce qu'à l'époque, on se disputait sur quel titre donner in fine au livre. L'image cadre très bien avec le titre. Je me dis, bon, banco, c'est vendu et c'est parti. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu d'ailleurs, qui, selon moi, représentait assez bien l'idée que je me faisais des rosées lointaines et de tout ce que ça pouvait inspirer.
D'accord. La quatrième de couverture nous présente un très jeune auteur. Vous, quand je vous rencontre, vous n'êtes pas loin du tout de la présentation qui a fait. Vous êtes très jeune. Vous avez 23 ans et 6 mois, si je me trompe. Bientôt 24 ans. Ah ben oui, j'ai fait le calcul. À l'époque où cet ouvrage est rendu public en 2015, vous en aviez 22 ans.
Oui, c'est vrai, entre
21 et 22 ans. Vous étiez étudiant en analyse biomédicale à l'École supérieure des techniques biologiques et alimentaires Esteba.
Est-ce que vous continuez les études? Vous continuez d'étudier?
J'ai l'intention de continuer. Pour le moment, depuis ma licence, disons que je suis entre deux stages, mais oui, l'idée d'un master me parle énormément. Donc, dès que l'université nous dira que c'est OK, on se lancera.
Alors, vous êtes lauréat de deux prix littéraires au Togo. Quels sont ces prix?
Comme vous le savez, il y a un certain nombre d'associations au Togo qui organisent de temps à autre des concours. Donc, il y a eu un concours organisé par le GRAP, le groupe de réflexion d'action pour la promotion de la poésie, et le Cénacle, qui ont gagné deux concours, que j'ai eu la chance de gagner le premier prix pour l'un, le second prix pour l'autre. Donc, ça me fait, disons, ces deux prix donc, de concours dans ma besace littéraire.
Rosée lointaine est un recueil de 48 poèmes, selon mes décomptes, écrits sur 86 pages. Un de ces poèmes est sans titre. Pourquoi? Vous avez juste choisi un pour ne pas mettre un titre. À la page 80, il y a un poème. Je n'ai pas trouvé de titre et je me suis dit pourquoi.
C'est le seul. Peu comme les tableaux, tableaux de peintres.
Oui, mais pourquoi c'est le seul?
Qui sont sans titre.
Pourquoi c'est le seul?
Je crois que la question serait plutôt pourquoi les autres en ont finalement.
Pourquoi on titre certains poèmes et d'autres pas?
Quoi qu'il en soit, je me rappelle très bien parce que ce poème avait été inspiré par une sorte de fulgurance comme ça. J'avais beaucoup aimé quand je l'avais fini et je ne me trouvais plus la force de lui imposer un titre. Vous savez, actuellement dans la tendance poétique aussi, bon, le titre... C'est un cours
philosophique. C'est pas très important.
Voilà, on se pose des questions, quoi. Ouais. Si le texte en lui-même se tient sur ses deux jambes, comme j'aime à le dire, s'il se tient droit, ne l'embrigade pas forcément avec un titre. Si le fond y est, voilà, laisse faire, laisse couler, quoi.
Que représente pour vous la poésie? Une femme? Un océan? Un regard? Une larme?
Il y a quatre réponses très tentantes là. Je crois que je...
Quand on prend le poème Image, vous avez posé cette interrogation.
Absolument.
À la page 65.
Absolument. Vous m'avez lu.
Il a l'air d'être surpris d'avoir été lu. Peut-être que ça lui arrive pas souvent.
Non, c'est... Effectivement, c'est... Vous savez que la poésie rime avec beaucoup avec Image. Donc... Femme, océan, regard, larmes. J'ai envie de dire que c'est tout ça à la fois. Dans cet ordre-là, ou inversement, suivant la personne, mais oui. Et d'ailleurs, je crois que je ne tranche pas vraiment dans le poème.
Justement.
Si elle était une femme, voilà. Si elle était un océan, si elle était une larme.
Je crois que vous n'avez pas une seule source d'inspiration. Vous tirez de partout.
Ah non, clairement, je n'ai pas une seule source d'inspiration. Je ne sais pas s'il y a un seul auteur qui a une seule source d'inspiration. Ça doit être assez spectaculaire, je trouve. Ce serait comme avoir un bouton on-off.
vous l'avez également décrite, la poésie, comme un terreau. Le titre terreau, ça vous rappelle quelque chose, poésie? Une idée reçue, cueillie en pleine main par une plume indécente.
C'est effectivement le terreau, parce que c'est là où on met la graine et qu'elle pousse, et qu'elle fleurit, et qu'elle donne des fruits, etc. Donc l'idée de la poésie comme un terreau, c'est quelque chose qui me... C'est pour ça que j'en ai parlé, qui me plaît beaucoup, parce que c'est comme ça que ça marche, en fait. Tu plantes une graine, on va dire une idée ou une inspiration, et elle germe, elle fleurit, et elle... Parfois, on est surpris par la beauté des fleurs que ça donne. Parfois, on est un peu déçu, mais c'est un terreau c'est qui produit de fort belles choses, assez souvent de fort belles fleurs. C'est toujours un plaisir inouï justement de planter ses graines dans ce terreau pour voir le résultat.
Alors, en parcourant votre cueil, je constate, justement, je l'ai parcouru, vous l'avez constaté, je constate cette facilité... Et cette liberté à utiliser les mots, à les manipuler à votre guise. Quand vous écrivez, est-ce que vous pensez à vos lecteurs ou bien vous écrivez pour vous d'abord?
C'est ça. Pour être honnête, j'écris avant tout pour moi, mais pas uniquement pour moi parce que ça n'a pas beaucoup de sens. J'écris avant tout pour moi, mais bien sûr pour les autres, mais d'abord pour moi. Je crois que c'est Nabokov qui disait que si ce que tu écris ne te plaît pas, c'est même pas la peine de le proposer à autrui, ça ne sert à rien. Et il faut que, en bien comme en mal, parce que c'est un autre débat. Mais il faut que tu ressentes ce que tu as écrit toi-même, que ça te parle, que ça te... que ça te fasse de la colère, parce que ça arrive quand on écrive pour se décharger de quelque chose. Mais il faut que ce que tu écris te frappe d'une façon ou d'une autre. Et ensuite, tu peux espérer ou oser espérer que ça frappe autrui, voire une personne qui ne te connaît pas à l'autre bout de la planète qui te lira un jour. Donc, oui,
vous effectivement. Vous êtes jeune, mais si vous pensez à quelqu'un en écrivant, je ne suis pas sûr que ce soit un jeune de votre âge.
Je ne suis pas sûr.
À qui vous adressez-vous ? Quelle est la cible ?
J'aime à penser que je m'adresse au monde, dans son ensemble, à l'Afrique et au monde. Mais je n'ai pas de prétention à, je dirais, restreindre ma cible, mon éditoire. Peut-être que ce qu'on appelle le style pourrait être une limite objective. Mais c'est quelque chose que je crois, le style, c'est une chose qui nous dépasse. Elle nous définit, mais ça ne nous pas écrire pour un type de personne en particulier. Si par la force des choses, les écrits se feraient un chemin plus vers une cible qu'une autre, ça, c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas encore de contrôle.
D'accord, vous dénoncez beaucoup, vous éveillez, je dirais même que vous réveillez, mais vous suggérez aussi, quand on prend l'ambition, vous avez fait des suggestions. 21, la page 21 de votre livre, qui dit « L'ambition n'est point là ». Et vous avez décrit là où ne se trouve pas l'ambition. Et puis, l'ambition est là. Et vous avez fait des suggestions. Ça fait partie du travail de l'auteur? Ça, c'est une question que je pose aux deux. De faire des propositions sur des sujets précis.
Enfin, ça dépend du genre, hein.
Ça, c'est de la poésie. Et oui, je suis un peu surpris qu'un poète fasse des suggestions, des propositions dans ce qu'il écrit.
C'est lui seul qui peut répondre à cette question.
On a toujours eu la prétention de cantonner l'art poétique à un certain type de fonction. L'exaltation des émotions, le chant du rêve, des choses comme ça. Je pense que les deux postures extrêmes sont dangereuses. Autant de dire que la poésie, c'est juste, voilà, je t'aime, etc., etc. Et de dire, je suis le doigt vindicatif qui...
Mais la poésie peut faire des propositions d'ordre poétique. Quand le poète René Char nous propose ceci, la terre est bleue, comme une orange. Je trouve que on peut passer des heures à essayer de comprendre le poème. Mais en réalité, il ne veut pas qu'on comprenne le poème. Ouais, c'est juste une proposition pour développer son émotion. En réalité, je crois que le vrai problème des poètes, je ne suis pas poète, mais j'en lis, le vrai problème des poètes, c'est moins le style que la langue, à mon avis. Surtout quand on écrit dans la langue française. La plupart du temps, si on s'amusait à demander à l'auteur quelle est la langue qui dans laquelle les idées naissent, il se rend compte que il est impossible de dire avec précision comment l'émotion est née. Est-ce que c'est dans sa langue maternelle parce que le français est une langue d'écriture. Or, pour la maîtriser, il faut pouvoir maîtriser ses sensations de départ. Quand vous dites « arbre » en français et que vous pensez au philao, c'est pas la même chose. Parce que le philao est un type d'arbre trop précis pour être contenu juste simplement dans le mot « arbre ». Donc il y a une question de précision et d'imprécision qui fait qu'on peut tomber dans une proposition
d'ordre poétique. Peut-être qu'on aura le temps de revenir sur ce débat.
C'est un sujet intéressant d'ailleurs.
Mais le temps nous talonne. Une dernière question. Que vous inspire l'Égypte ou encore le Japon?
Je commence par parler le dernier. Les Japonais, pour moi, c'est un grand peuple. Un très grand peuple. qui est dur, qui est un peuple assez dur, mais qui a fait des choses assez extraordinaires dans sa longue, longue histoire. Et pour la petite histoire, j'ai été énormément abreuvé de manga japonais. Ce qui fait que depuis l'enfance, il y a une affection quasi tyrannique pour ce pays ou ce peuple qui n'a pas forcément la langue la plus belle du monde, mais qui, justement, par le biais culturel, juste des mangas, a réussi à nous faire aimer et connaître cette culture-là. Et donc, c'est quelque chose qui est rentré, disons, par des... presque clandestinement dans notre subconscient de nous jeunes d'aujourd'hui. Donc oui, c'est pour ça qu'on retrouve d'ailleurs des titres en japonais, et le haïku aussi, ouais. dans mon truc. Et enfin, l'Égypte, pour moi, bon, quand je dis l'Égypte, je pense à Charanta Diop, évidemment. C'est comme il disait, les humanités égypto-nubiennes sont aux Africains ce que les humanités gréco-latines sont aux Européens. Donc, c'est une sorte d'alma mater de terre-mère, un peu mythifiée, mais quand même, c'est là d'où nous venons tous. C'est l'une des grandes civilisations africaines. Donc, l'Égypte antique, c'est quelque chose qui me passionne énormément. D'un point de vue... puisque je suis passionné par l'histoire, surtout l'histoire des civilisations, et aussi d'un point de vue de pensée collective et d'imaginer un jour une identité africaine, l'Égypte, c'est un jalon très, très intéressant dans le processus qui fait qu'on pense ça. Donc oui, c'est quelque chose de très, très intéressant.
Merci Renaud Dossavi et Ali Poué.
Merci à vous.
La toute dernière question de cette émission, je vous l'adresse à vous, Kani Alem. Le Festival international Les Lucioles Bleues démarre demain, donc disons, continue. La deuxième étape démarre demain. Et au programme, il y a une rencontre, il y a des rencontres dans les établissements scolaires. Mais aujourd'hui, nous savons qu'il y a des petits soucis avec les élèves qui ne sont pas sur place, les enseignants qui sont en grève et tout. Est-ce que vous avez un plan B au cas où ?
Non. Tout va bien se passer.
D'accord.
Non, parce que nous sommes en contact permanent avec... les professeurs de français.
Ouais, juste en seconde.
Oui, parce que notre cible, c'est quand même les classes littéraires d'abord. Donc nous travaillons avec les professeurs. Et si vraiment il y a impossibilité à ce que la rencontre se fasse, ben, nous nous plierons à la réalité du terrain.
D'accord. Merci à vous, Kani Alem. Je rappelle que vous êtes le directeur artistique du festival Fil Bleu. Merci à vous, fidèles auditeurs, de nous avoir suivis. Cette émission prend ainsi fin. Elle sera rediffusée ce soir à 23h. Je vous rappelle le rendez-vous de demain à 11h pour le second numéro. Ce sera avec Andrea Manim. Et dans quelques instants, vous suivez le flash sur la radio, la meilleure des radios. Merci à toute l'équipe qui nous a suivis, qui nous a aidés à réaliser cette émission. Au revoir.
Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. Mercredi 15 mars, Fil Bleu, la radio du festival, reçoit la romancière Thérèse Karoué-Atchal pour son livre